Bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez?
Oui,
c'est bon? Ok. Ça fait toujours plaisir de retrouver ici. Le temps de louange était extraordinaire. On a envie que ça ne s'arrête pas, hein, qu'on continue comme ça. Donc, je m'appelle Marianne Brockville, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis partie il y a juste 25 ans, le 3 janvier 1995, au Népal, où j'ai passé 10 ans. Ensuite, j'ai déménagé au Tibet et j'étais 7 ans en Chine. Et puis, je suis revenue en Suisse pour me refaire un petit peu au travail dans les hôpitaux ici. On s'était vu à cette occasion-là, d'ailleurs. Tu veux le faire passer devant ou bien... Ça va bien. Oui, oui. Pour moi, pas de souci. Si ça va pour les autres. Oui, d'accord. Alors, oui, les oiseaux, c'est ma passion. Quand je suis pas dans un laboratoire, d'aller observer les oiseaux, photographier les oiseaux. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, hein. Ça tombe bien, Roland m'a dit ce matin que pour les catéchumènes, c'était le thème de la journée, c'était la mission. Et moi, il y a une jeune qui a peut-être l'âge de ces catéchumènes, j'en sais rien. C'est la fille d'Erika Kunz, enfin elle s'appelait Kunz avant, certains la connaissent, qui m'a écrit récemment. Elle devait faire un travail pour son école en interviewant un ou une missionnaire. Alors c'était assez intéressant parce qu'elle m'a posé plein de questions et c'est pas mal après 25 ans de s'arrêter, de réfléchir. Ça veut dire quoi être missionnaire? C'est une question qu'on peut tous se poser. Et dans le mot missionnaire, il y a mission. Donc c'est quelqu'un qui a une mission. Et en cela, nous sommes tous missionnaires comme disciples du Christ. On a tous une mission. Une mission auprès, une mission au loin. Une mission dans notre famille, une mission dans notre travail, une mission à l'école. Chacun de nous a une mission. Et je dirais même plus, cette mission, elle est du domaine diplomatique. Et quand on parle d'une mission diplomatique, on entend qu'il s'agit d'un représentant d'un pays dans un autre pays qui est là pour représenter son pays d'origine. Et alors il faut que je mette, pardon. Et dans Jean, Jésus leur a donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, Jésus dit que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes envoyés dans le monde. Nous sommes donc ambassadeurs. Si nous ne sommes pas de ce monde, c'est que nous sommes déjà d'un autre monde. Nous sommes déjà partie du royaume. Et en tant que citoyens du royaume, Dieu nous envoie et nous avons une mission, celle de représenter notre patrie, ici, en Suisse, là-bas, au Népal, partout où le Seigneur nous place dans ce monde. Nous sommes ambassadeurs. Vous tous, nous tous. Et l'ambassadeur, il représente son pays, il ne fait pas ce qu'il veut. La stratégie, ce n'est pas lui qui la décide. C'est le gouvernement qui l'envoie et qu'il doit représenter dignement. Nous lirons dans 2 Corinthiens 5, au verset 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le cri de Dieu, c'est « Sois réconcilié avec moi ». Nous avons un Dieu qui nous cherche. C'est une différence très importante avec les grandes religions. Nous venons d'avoir à Morges, ils m'ont demandé d'aller parler aux catéchumènes sur le bouddhisme. Et on le voit très bien dans le bouddhisme, mais aussi dans d'autres religions, que c'est une foi totalement différente. Il y a des contrastes étonnants. Dans la plupart des religions, c'est le mérite. Il faut mériter. Il faut mériter son salut. Il faut balancer son karma. S'appliquer à tout faire juste, en espérant atteindre le paradis. C'est quelque chose que je vis dans mes relations au Népal, que j'ai vécu au Tibet aussi. Il y a souvent une incompréhension de ce qu'on fait. On dit « Ouais, tu fais du bon travail, tu fais des bonnes choses, tu auras un bon karma. » Et d'arriver à convaincre que non, on ne peut pas gagner son salut. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir un Dieu qui nous aime, un Dieu qui s'intéresse à nous, un Dieu qui nous cherche activement. Il désire une relation profonde avec nous. Et le texte que j'ai choisi pour ce matin, c'est dans l'évangile de Luc, au verset 15, qui nous parle justement de ce Dieu qui nous cherche. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller vers celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. » De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu, en Jésus, le bon berger cherche sa brebis. Récemment, avec une petite équipe de la région, nous sommes montés tout au nord du Népal, dans une région qui s'appelle le Mustang, tout près de la frontière avec le Tibet. Et là, nous avons vu beaucoup de troupeaux, troupeaux de moutons, troupeaux de chèvres, avec leurs bergers toujours. Et c'est vrai que des fois, ils nous foutaient un peu la trouille, hein, parce qu'ils se mettent dans des situations... Ça peut être assez impressionnant. Mais nous savons que le berger est là, que le berger les dirige, qu'il s'en occupe. Et j'aimerais vous parler d'une brebis. Son nom, c'est Radhika. Elle est infirmière dans notre hôpital au Népal. Elle est un village juste à côté de notre hôpital. Elle y travaille depuis sa jeunesse. Elle n'était pas mariée, mais sur le tard... Comme ça se fait beaucoup au Népal, sa famille a arrangé un mariage pour elle, avec un veuf qui avait 3 enfants. Elle n'a pas eu d'enfants elle-même, mais elle s'est occupée des enfants de ce veuf. Elle s'est attachée à lui, elle l'aimait vraiment. Comme elle avait un bon travail à l'hôpital, à Tansen, où je travaille aussi, elle a tout arrangé pour que lui puisse venir. Elle a fait des emprunts à la banque pour qu'il puisse démarrer un restaurant. Elle a tout donné pour cet homme. Mais un jour, il est parti avec une autre femme. C'était un choc pour Radhika. Et quelque part, elle sombrait dans le désespoir. J'ai une autre amie que vous connaissez parce qu'elle est venue il y a 3 ans. Je ne sais pas si certains de vous l'ont rencontrée, Sabina. Sabina aussi a beaucoup souffert elle-même. Elle supporte très mal de voir quelqu'un souffrir injustement, surtout si c'est d'une femme. Dans notre hôpital, il y a 400 employés, donc elle se connaissait comme ça. Sabina au laboratoire, Radhika dans le service d'orthopédie, mais elles n'étaient pas proches du tout. Par contre, Radhika avait observé la façon dont Sabina s'occupait de ceux qui avaient des problèmes, l'amour qui émanait de cette femme. Et quand elle a eu des difficultés elle-même, naturellement, elle s'approchait d'elle. Alors ça dit, Sabina l'a prise chez elle, elles ont discuté. Elles ont réfléchi comment s'en sortir maintenant qu'elle était seule. Bien sûr, toutes les dettes étaient à son nom, parce que c'est elle qui pouvait prendre un emprunt vu qu'elle avait un travail à l'hôpital. Donc il est parti lui laissant toutes les dettes. Donc elle a continué à faire tourner le petit restaurant que son mari avait commencé, tant bien que mal, à côté de son travail à 100% à l'hôpital. Donc, une grosse difficulté. Lorsque Sabina est partie, c'était très difficile pour Radhika. Alors, j'ai demandé à... Donc, entre autres, c'est le restaurant où je mange tous les jours à midi. Soit le dalbat, le riz, les lentilles. Enfin, ceux qui étaient là hier soir au repas de soutien ont goûté un peu à la cuisine népalaise. C'est pas toujours aussi riche comme hier soir. Hein, mais la base, c'est le riz, les lentilles et les légumes au curry. Ou bien roti tarkari, qui est du pain avec des légumes au curry. Donc c'est le restaurant où je mange tous les jours. Lorsque Sabina nous a quittés en décembre 2018, j'ai été voir ma propriétaire. Et je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais donner le studio qui est dans notre jardin à Radhika pour qu'elle vienne s'y établir? Donc, Radhika a pris ce studio et depuis, nous partageons nos repas. Nous mangeons tous les jours ensemble. Dans son temps où elle a vécu avec Sabina, elle s'est vraiment approchée du Seigneur. Elle lui a donné son cœur. Donc, c'est une occasion pour moi aussi, dans notre relation, de prier ensemble, de lire la parole. Nous allons dans la même église, on partage le même groupe de maison. Et ça me réjouit beaucoup parce que je sais que maintenant, on est sur vidéo chat de temps en temps. Et elle me dit « Attends, maintenant c'est l'heure, il faut que j'aille au groupe de maison. » Donc elle continue à y aller et c'est un très grand encouragement pour moi. Et je me réjouis beaucoup de la retrouver. Elle est bientôt hors de son problème de dette, ce qui est un grand encouragement. Et elle peut faire des projets d'avenir. Alors merci de prier pour Radhika. Une brebis perdue que le Seigneur a cherchée activement et qu'il a trouvée, qu'il a mise sur ses épaules, dont il s'est occupé. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle l'appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme qui était perdue, que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Un Dieu qui nous cherche. Certains commentateurs voient dans ce chapitre 15 de Luc une représentation de Dieu en 3 personnes, la Trinité. Un Dieu qui désire tellement cette relation avec nous que tout son être nous cherche. Dans le bon berger, nous reconnaissons le Seigneur Jésus, Dieu le Fils. Dans la femme qui allume une lampe et balaye la maison, le Saint-Esprit. Et plus loin, dans l'histoire du Père et de ses deux fils, Dieu notre Père. Dieu tout entier nous cherche. Et ce qui est très encourageant pour moi est de savoir que rien ne peut arrêter le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de visa. Quand Dieu, par son esprit, a commencé une œuvre, il la complète. Le Népal passe par des moments difficiles. La situation au point de vue religieux s'est pas mal resserrée. Nous le sentons à l'hôpital, à l'école de la Borontine, mais aussi surtout à l'internat Happy Home, cet internat que nous avions mis sur pied il y a 23 ans pour des enfants de la montagne. On a dû s'enregistrer officiellement. Alors ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça nous donne une structure, un cadre. Il y a des règlements, il y a des audits chaque année, il y a un contrôle sur la qualité. Donc c'est très bien. Mais ça nous donne aussi des contraintes. Et comme le gouvernement devient de plus en plus anti-chrétien parce que l'Église grandit trop vite... il y a des pressions sérieuses. Donc quand ils viennent inspecter l'internat, ils ne s'intéressent pas trop à savoir si la nourriture est équilibrée, si c'est propre, si les sanitaires sont suffisants. Mais ils vont regarder s'il y a des bibles dans les armoires. Alors on a dû choisir entre tout proposer ou rien du tout. Alors nous, on a choisi de tout proposer. Donc dans la bibliothèque, hein, il y a le Coran, la Bible, Bhagavad Gita. Et puis l'enfant peut choisir, parce que dans la Constitution, il y a une liberté de religion. Et c'est là qu'il faut avoir confiance et se dire, le Saint-Esprit, l'œuvre qu'il a commencée, il la continue. On n'a pas le droit d'imposer aux enfants de venir au culte avec nous ou dans les activités de l'Église, mais ils y viennent d'eux-mêmes. Il y a aussi une organisation un petit peu comme les flambeaux Claire-Flamme ici, et ils ont beaucoup de plaisir à y participer. Donc rien ne peut arrêter son esprit. Il balaye dans les coins, il fait la lumière dans les cœurs. Et dans le passé, son esprit s'est manifesté de façon magnifique. Il y a maintenant deux groupes de maisons, un à Pokhara, et un à Katmandou. La traduction de la Bible dans leur dialecte progresse bien. Les évangiles, les actes et la plupart des lettres ont été traduites, ainsi que la Genèse dans l'Ancien Testament. Certains sont bons musiciens et écrivent des cantiques dans leur langue. Ils ont très à cœur les plus jeunes. Ils les entourent. De plus, ceux qui sont encore à Happy Home vont d'eux-mêmes dans les diverses activités de l'Église locale. Malgré l'opposition, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Rien ne peut l'arrêter. Une autre grande difficulté du Népal, c'est le manque d'avenir pour les jeunes. La corruption est rampante à tous les niveaux. L'économie est très difficile. Nos jeunes, même après une bonne éducation, ne trouvent pas facilement du travail. Presque chaque famille au Népal a quelqu'un qui travaille à l'étranger et qui envoie de l'argent à la maison. C'est le revenu principal du pays en ce moment. Surtout dans les pays arabes, en Malaisie, au Qatar, Dubaï, enfin dans tous ces pays-là, mais aussi dans des pays d'Europe. Et la pression sur les jeunes qui ont grandi à Happy Home et qui ont une bonne éducation, qui parlent l'anglais, est énorme. Récemment, on en a rencontré 9 à Paris qui sont là pour chercher du travail. Et c'est les familles qui mettent la pression sur eux. Ils leur disent « Toi, tu sais l'anglais, tu auras une meilleure chance de trouver du travail, donc c'est toi qui pars. » Et ils doivent partir. Donc priez pour ces jeunes. Il y en a qui restent. Il y en a qui travaillent, qui font un travail merveilleux, splendide au Népal, mais il y en a quand même pas mal qui sont partis. Priez pour qu'ils ne perdent pas ce qu'ils ont acquis et qu'ils puissent trouver une famille spirituelle aussi dans leur pays d'accueil. Donc, louez le Seigneur pour son esprit que rien ne peut arrêter et qui continue d'agir malgré les restrictions. il est bon et continue de chercher et illuminer les vies. Si on continue dans Luc 15, nous n'irons pas tout le passage, mais vous connaissez tous l'histoire de ce père qui avait deux fils. Le plus jeune lui demande sa part de l'héritage, s'en va et gaspille tous ses biens en menant la grande vie. Quand il se retrouve dans la misère, il repense à son père et décide de revenir. Mais le père qu'il aime d'un amour immense n'a jamais cessé de l'attendre. On devrait plutôt appeler cette parabole celle du père aimant, car c'est lui le personnage central de l'histoire, un père bienveillant qui donne la liberté à ses enfants et qui est toujours là pour eux. Il nous attend tous et espère toujours notre retour. Je pourrais vous donner plusieurs exemples de fils que le père a accueillis parmi les élèves de notre école de Laboron. Abinèche est d'une famille chrétienne, mais je dois dire, c'est celui qui nous a donné le plus de fil à retordre depuis qu'on a commencé. Je crois que chaque fois qu'il y a une issue disciplinaire, chaque fois qu'on doit aller dans le bureau de la directrice, il est là. Hein. Mais on a dû être très strict avec lui. Ses parents prient beaucoup pour lui aussi, ce sont mes voisins. Et petit à petit, on voit le Seigneur faire son œuvre dans ce jeune et le ramener à lui. Et c'est beau de voir ça. Il le travaille, il le transforme. C'est un peu un hyperactif. Alors, il faut l'occuper. Et puis ça passe pas très bien dans une classe. Alors moi, des fois, je lui donne une tâche particulière, comme pareil, ma voix ne porte pas très, très fort. Donc quand il pleut sur les toits de tôle, on n'entend pas très bien. Alors je dis, Abinèche, tu viens là et tu répètes tout ce que je dis. Alors ça le garde concentré, il est actif et puis ça lui va super bien. Il y a aussi Karna. Karna travaillait comme laborant assistant au laboratoire. Il n'était pas chrétien quand il est arrivé. Sabina s'est occupée de lui. Et une église voulait organiser une donation de sang pour l'hôpital. Donc elle a demandé à Karna si pendant son temps de libre, il pourrait l'accompagner pour travailler là-bas. Et dans cette église, il a rencontré des copains avec qui il était à l'école. S'est lié d'amitié avec eux, a commencé à suivre cette église, s'est donné au Seigneur une transformation totale. L'hôpital a décidé de choisir Karna pour l'envoyer dans notre école de laborant pour qu'il obtienne un diplôme de 3 ans de laborant. Et c'était génial de voir ce jeune. Là, c'est le jour de la remise des diplômes. Qui a été un vrai leader dans sa classe. Positif. Et c'était vraiment super. J'aimerais aussi vous parler de Saurabh. Lui, il s'est converti avant de venir dans notre école, mais il était d'une famille de prêtres, de père en fils. Donc c'est ceux qui vont pour toutes les cérémonies, pour lire les textes religieux d'une maison à l'autre. Et quand il est venu au Seigneur, il a été mis à la porte de sa maison. Ils lui ont dit « t'as plus rien à faire ici, il était à la rue ». Et c'est l'église qui l'a accueilli et qui nous a demandé si on pouvait le prendre dans notre école, avec une bourse d'études, parce qu'il n'avait rien. Il n'a même pas de quoi manger. Donc c'est une bourse totale. Une bourse d'études qui comprend son logement, sa nourriture et l'écolage. Et c'est le SME qui soutient Saurabh pendant ses études. Il est en dernière année maintenant. Un jeune très brillant. Au Népal, il y a de nombreuses histoires comme celle de Karna, de Saurabh, et l'église grandit très rapidement. Et c'est merveilleux d'être là et de voir ces choses se passer. Il y a de la résistance. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie facile. Au contraire, il nous dit « Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Dieu nous cherche. Dieu nous accueille. Dieu, dans son être tout entier, le bon berger par son Saint-Esprit, le Père qui nous accueille, veut cette relation avec nous et il est à l'œuvre. Il rassemble ses enfants. Rien ne peut l'arrêter. Et c'est une grâce qu'il nous fait de pouvoir œuvrer avec lui. J'ai souvent l'impression d'être spectatrice de ce qu'il fait. C'est une joie. Le défi que je me lance, que je vous lance, est de comment être au quotidien son ambassadrice, son ambassadeur. Comment refléter dans ma vie, dans ta vie, ce message d'amour que Dieu veut que chacun connaisse. Merci.